Europe 1.
Europe 1 Matin Week-end.
6h, 9h.
Cédric Chasseur.
Le journal, c'est avec Thomas Schnell.
Bonjour à tous. 61 milliards de dollars pour regonfler les capacités de l'Ukraine contre la Russie. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a adopté une enveloppe attendue par Kiev depuis des mois.
Faut-il étendre le couvre-feu à tous les mineurs à partir de 23h? Plus de la majorité des Français interrogés dans un sondage européen y sont favorables.
À chaque fois qu'Israël braque les projecteurs sur l'Iran, on ne parle plus des otages. Les familles des captifs redoutent que le gouvernement n'accélère pas les négociations en ripostant aux attaques iraniennes du week-end dernier.
Juste après les informations, la pop culture avec Mathieu Alterman. On parle de quoi aujourd'hui ?
Je vous parle des chansons de rupture vécues par leurs interprètes.
Et des questions de droit avec Ai-je le droit, Roland Pérez ?
D'être maintenu à mon poste malgré ma faute si j'ai eu par le passé un parcours justement sans faute.
Question tirée d'une histoire vraie, ce sera après le journal et la tendance météo d'Anthony Kaczmarek.
Le froid se renforce ce matin et il ne fera que 7 à 21 degrés cet après-midi, avec toujours des averses sur un très large quart nord-est, mais plus vous irez à l'ouest et au sud, plus vous aurez du soleil.
On se retrouve dans moins de 10 minutes.
Europe 1.
L'Ukraine salue une aide qui va sauver des milliers de vies.
Les élus américains ont approuvé à la Chambre des représentants un plan d'aide massif, plus de 60 milliards de dollars, pour aider l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se réjouit du vote du Congrès américain.
Aujourd'hui, nous avons reçu la décision que nous attendions sur le soutien américain, pour lequel nous nous sommes tant battus. Il s'agit d'une aide très importante qui sera ressentie par nos soldats sur la ligne de front, ainsi que par nos villes et nos villages qui souffrent de la terreur russe. La Chambre des représentants des États-Unis a voté. Merci à tous ceux qui ont soutenu cette aide. C'est une décision qui sauvera des milliers et des milliers de vies. Je suis personnellement reconnaissant envers le président Mike Johnson, envers tous les Américains qui, comme nous en Ukraine, estiment que le mal russe ne devrait certainement pas gagner. J'espère que l'examen de cette aide au Sénat américain et son renvoi au président Biden seront assez rapides.
Moscou a réagi, affirme que cette aide va tuer encore plus d'Ukrainiens à cause, je cite, du régime de Kiev. Les parlementaires américains ont également approuvé un ultimatum lancé à TikTok. Le réseau social doit couper les ponts avec sa maison mère chinoise pour continuer à être disponible aux États-Unis.
Et dans son vote hier, le Congrès américain a aussi délivré une enveloppe d'aide à Taïwan et à Israël.
6 mois après les attaques du 7 octobre, les familles israéliennes des otages du Hamas se rassemblent tous les samedis à Tel Aviv pour appeler à libérer leurs proches. 197 jours de captivité et l'escalade contre l'Iran inquiète davantage encore les familles. Reportage de l'envoyé spécial européen Wilfried de Villers.
Nathan Siegel tend à bout de bras un grand portrait de son oncle Keith, 64 ans, toujours retenu à Gaza. Depuis une semaine et les frappes iraniennes qui ont visé Israël, il craint que le sort de son oncle et des 133 otages ne soit relégué au second plan.
À chaque fois qu'Israël braque les projecteurs sur l'Iran, c'est ça qui fait la une. C'est dangereux. Vous savez, au début de la semaine, le cabinet de guerre s'est réuni et n'a parlé que de l'Iran, pas du tout des otages. Alors que tout ce qui devrait concerner le cabinet de guerre en ce moment, c'est de trouver une solution pour les otages.
Sa peur principale, que le gouvernement en fasse moins concernant les négociations avec le Hamas, celles qui n'aboutissent pas depuis des semaines. C'est aussi pour cela que Michael Levy estime qu'il est essentiel que les rassemblements comme celui de ce samedi se poursuivent.
Tout ce qu'il se passe est une préoccupation pour nous tous. L'une des raisons pour lesquelles nous nous rassemblons, c'est de faire en sorte que la priorité numéro une reste les otages. Là maintenant, il faut qu'on s'occupe du Hamas, ensuite ils n'auront qu'à s'occuper de l'Iran.
Un peu plus loin dans la foule, un homme crie un slogan anti-Benyamin Netanyahou. Il considère le Premier ministre comme responsable de l'échec des négociations pour la libération des otages. Tel Aviv, Wilfried de Villers, Europe 1.
Hier, l'armée israélienne a quitté le camp de Cisjordanie occupé dans lequel elle disait mener un raid antiterroriste depuis 2 jours. 10 Palestiniens ont été tués, 8 autres arrêtés dans l'opération. Pendant ce temps, le chef du Hamas est à Istanbul lors d'une rencontre avec le président turc hier. Recep Tayyip Erdogan a appelé tous les Palestiniens à s'unir contre Israël.
7h05 sur Europe 1 à Paris. Une marche contre le racisme doit s'élancer à partir de 14h.
Au départ de Barbès, le défilé doit se terminer place de la République. Une marche temps annulée par la préfecture face au risque de troubles à l'ordre public. Finalement autorisée après une décision de justice, cette marche est surveillée de près car jugée ultra sensible selon une note des renseignements qu'Europe 1 s'est procurée. Alexis de la Fontaine, c'est en partie à cause des organisateurs.
Eh bien oui, car cette marche est organisée par les mouvements indigénistes, pro-palestiniens et par la France insoumise en pleine période de tension au Proche-Orient. Une dizaine de milliers de manifestants sont attendus selon les estimations de la préfecture de police et parmi eux, une centaine de Black Blocs habitués à l'ultra-violence contre les forces de l'ordre. Sur le parcours, plusieurs magasins risquent d'être pris pour cible par les militants pro-palestiniens comme Carrefour ou McDonald's, deux enseignes qu'ils accusent de complicité avec Israël. Autre inquiétude lors de cette manifestation, le concert des rappeurs Medine et Tunisiano, place de la République à 18h. Des artistes très populaires auprès de la jeunesse des quartiers sensibles, mais capables de prononcer des propos antisémites, selon une note des renseignements qu'Europe 1 a pu consulter. Pour faire face à ces inquiétudes, une forte présence policière est prévue tout au long de la journée.
Une nouvelle agression à Grande-Synthe dans le Nord, 5 jours après le meurtre de Philippe Kopman, un ado de 15 ans, tabassé et dénudé par des hommes cagoulés, a été retrouvé hier. Il s'agit d'un cousin d'un des jeunes mis en cause dans le meurtre de Philippe. Les autorités ont renforcé le dispositif policier et le maire de la ville appelle au calme. Face à la multiplication des violences chez les jeunes, faut-il étendre un couvre-feu généralisé pour tous les mineurs à partir de 23h? Selon notre sondage CSA pour Europe 1, 67% des interrogés seraient favorables à une telle mesure, Arthur Delaborde.
Obliger les jeunes à rester chez eux en fin de soirée et pendant la nuit, une idée largement soutenue par les Français de tous bords politiques. 8 sympathisants de droite sur 10 y sont favorables, tout comme 6 sympathisants de gauche sur 10. La mesure séduit aussi 63% des soutiens du parti présidentiel Renaissance. C'est au Rassemblement National que le couvre-feu est le plus populaire. 85% des sympathisants RN sont pour. À l'inverse, les proches du Parti Socialiste sont les plus réservés, mais ils sont tout de même favorables à 56% à l'interdiction imposée aux mineurs de sortir de leur domicile au-delà de 23 heures. Par ailleurs, les résultats laissent apparaître un clivage générationnel. Ainsi, seulement 49% des 18-24 ans soutiennent l'instauration d'un couvre-feu, un chiffre qui grimpe à 75% chez les plus de 65 ans.
Une mobilisation organisée à Toulouse ce dimanche contre l'A69. Les opposants espèrent toujours voir abandonner ce projet d'autoroute entre Toulouse et Castres. Les travaux, eux, ont déjà commencé après l'épuisement des recours administratifs.
Il ne vous reste plus que 10 jours pour vous inscrire sur les listes électorales avant les élections européennes.
Le 9 juin prochain, nous sommes appelés aux urnes pour désigner les 81 députés européens français qui siégeront au Parlement à Strasbourg pour les 5 prochaines années. À Bordeaux, pour Europe 1, Stéphane Place, les démarches d'inscription sont très simples.
Sous 5 jours, vous recevrez un mail de confirmation d'inscription sur les listes électorales avec la précision de votre lieu de vote et la salle de vote.
Un quart d'heure ici à la mairie de Bordeaux, le temps de régler les formalités. Voici Karine et Isabelle inscrites sur les listes électorales.
J'étais inscrite sur les listes électorales à Paris. J'ai emménagé il y a quelques mois à Bordeaux, donc fallait pas que je loupe le coche. Et je pensais même que j'avais que jusqu'au 31 décembre pour m'inscrire. Mais en fait, non, pas du tout.
On se doit de toute manière, puisqu'après on n'aura pas le droit de se plaindre. Si jamais on n'a pas voté, eh ben, on peut pas se plaindre.
Deux citoyennes qui pourront donc voter le 9 juin prochain lors des élections européennes. Christine Marcel est la directrice adjointe aux formalités et à l'état civil à la mairie de Bordeaux.
Alors on peut s'inscrire jusqu'au 1er mai sur le site par internet donc, et on peut après s'inscrire dans la commune, à la mairie, en guichet ou par courrier jusqu'au 3 mai. On a un petit sursaut actuellement, on a une centaine d'inscriptions par jour, mais peut-être pas comparable par rapport à des élections telles que les législatives ou présidentielles.
Actuellement ici, 95% des inscriptions se font en ligne en fournissant simplement une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Et n'oubliez pas de donner procuration à un proche s'il vous est impossible de vous déplacer le 9 juin.
Les sports en cyclisme, Mathieu Van Der Poel rêve d'un triplé sur Liège-Bastogne-Liège.
Le champion du monde espère triompher lors de la 110e édition de la Doyenne des classiques qui existe depuis 1892. Après avoir remporté le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, il devra faire face à un adversaire à sa hauteur, Tadej Pogacar, Martin Lange.
Oui, le choc des titans, avec pour théâtre les côtes ardennaises, avec d'un côté Mathieu Van Der Poel, 6 jours de course cette saison et déjà 3 victoires, dont ce doublé Tour des Flandres, Paris-Roubaix. De l'autre, Tadej Pogacar, le Slovène, vainqueur en Catalogne et sur les Strade Bianchi. Les deux hommes ont tout raflé depuis le début de la saison et ils n'attendent qu'une seule chose, s'affronter. Tadej Pogacar.
J'ai hâte de courir contre Mathieu une fois de plus. Oui, cette course convient mieux aux grimpeurs qu'aux coureurs un peu plus lourds comme Mathieu, mais on sait tous qu'il est capable capable de tout. Ça va vraiment être une course très ouverte.
Oui, car avec près de 4000 mètres de dénivelé positif, la doyenne s'offre plutôt au poids-plume comme Pogacar, qui l'a déjà dompté en 2021. Mais Van Der Poel croit en ses chances, c'est ce qu'il a confié cette semaine aux médias. Le Néerlandais qui pourrait profiter des conditions climatiques dantesques, du froid, du vent, pour s'accrocher jusque dans la côte de la Redoute, traditionnel juge de paix de la doyenne.
Coup d'envoi des 254,5 km à 10h15 ce matin.
C'est sorti ça.
C'est ce qu'on appelle une véritable remontée en demi-finale aller de Ligue des Champions féminine. Les Lyonnaises étaient menées chez elles face au PSG. Mais à la 80e minute, un premier, un deuxième et puis un troisième, trois buts en 6 minutes. Et une victoire 3-2, match retour pour les Lyonnaises au Parc des Princes. Ce sera dimanche prochain pour une place en finale. En Ligue 1, Lens s'est imposé 1-0 face à Clermont pour la 30e journée du championnat.
C'était le journal de Thomas Schnell. Merci beaucoup.